when Ireland's lines of marching men in squadrons passed me by. No pipe did hum and no battle drum did sound its red tattoo, but the Angelus bell or the Liddy swell rang out in the foggy blue. Proudly high over Dublin town, they hung out a flag of war. It was better to die 'neath an Irish sky than at Sovel or Sudelbar. And from the plains of Ryanmead, strong men came hurrying through, while Britannia's sun with their long-range guns sailed in from the foggy dew. Bade our wild geese go, that small nations might be free. Their lonely graves are by Suvla's waves on the fringe of the grey North Sea. But had they died by Pierce's side or fought with Valera's crew, their graves we'd keep where Athenians sleep 'neath the hills of the foggy. And the sullen bell rang mournfully and clear.
Alors, c'est un chant de l'IRA, de l'IRA, comme on dit en France. L'IRA étant l'Irish Republican Army. Alors, n'étant ni irlandais, ni républicain, ni militaire, je ne me sens pas très concerné par l'IRA, mais quand même, j'ai demandé à Roland Ely, qui est un ami, qui est quelqu'un de la famille, qui est secrétaire général du mouvement d'initiative nationale, de venir nous parler ce soir de l'IRA, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il va souvent en Irlande et qu'il a rencontré des militants et des combattants de l'IRA. Pourquoi on va parler de ce sujet? On va pas en parler longtemps, on va parler pendant un petit quart d'heure, parce que je crois que dans la famille, il y a une espèce de malentendu qui s'est installé depuis fort longtemps et qui, curieusement, ressemble fort au malentendu qui s'est installé autour de la question palestinienne. C'est-à-dire que dans la droite nationale, il y a une tradition de l'ordre qui est tout à fait justifiée, qui est tout à fait positive, mais qui conduit à avoir une attitude finalement injuste. Je trouve personnellement qu'elle est injuste en face de certains problèmes. J'ai été personnellement très longtemps un supporter absolument inconditionnel d'Israël et un supporter absolument inconditionnel des Anglais en Irlande, parce que par passion de l'ordre en réalité. Mais au fond, quand on se pose, et ça fait rire cet adolescent incroyable, Pierre Monnier.
C'est un des points sur lequel tu vois. Ouais,
mais je suis en train de te rejoindre, tu vois, là, bien finalement, arrange tout.
C'est relatif.
Oui, tout est relatif, et réciproquement. Mais au fond, quand on considère les choses d'un point de vue simplement moral, on voit qu'il y a quand même une étroite identité de situation entre les Palestiniens qui étaient sur leur terre, qui ont été chassés par violence et par force, et qui sont aujourd'hui en situation de peuple occupé, et les Irlandais du Nord, qui sont exactement dans la même situation. Et ce qui est curieux, alors c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les Anglais, qui ont été, dans ces derniers mois, un des deux, disons un des quatre moteurs principaux de l'intervention occidentale au Koweït pour libérer le Koweït de l'occupation irakienne, sont eux-mêmes des occupants. Alors je trouve que là, il y a toute l'extraordinaire arrogance de ce que Céline appelait Sarah Marmelade, qui consiste à occuper d'une façon extraordinairement violente et arrogante un pays voisin et à venir donner des leçons au monde entier pour libérer un pays qui est à 7000 km de l'occupation d'un autre pays voisin.
Oui, c'est un phénomène tout à fait intéressant. Il faut savoir qu'à 900 km de Paris, à Belfast, actuellement, il y a des gens qui vivent depuis près de 75 ans dans des ghettos, tout simplement parce qu'ils sont catholiques ou parce qu'ils sont nationalistes. Il faut savoir que c'est dans cette population, 8 jeunes sur 10 sont au chômage. Il faut savoir que la grève générale a commencé il y a une vingtaine d'années et qu'elle continue. Il faut savoir aussi que tous les jours, des arrestations, tous les jours, des humiliations sont faites auprès sur ces gens-là, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, ils veulent l'unité de leur pays, ils veulent l'unité de leur nation. Alors, pour défendre cette cause, il y a différentes organisations, il y a le Sinn Féin, le parti nationaliste d'Irlande du Nord, et il y a aussi la Irish Republican Army, qui est une organisation que souvent, bien, on a qualifiée de terroriste. L'Irish Republican Army, à ma connaissance, n'a jamais attaqué ou n'a jamais revendiqué, contrairement à certaines provocations, et les provocations il y en a toujours, et nous sommes bien placés ici pour connaître ce genre de choses, eh bien, contrairement à certaines provocations, l'armée républicaine irlandaise s'est toujours attaquée à des objectifs militaires, à tel point que récemment, d'ailleurs, un responsable de l'armée républicaine irlandaise expliquait que si l'IRA voulait demain s'attaquer à des objectifs civils, eh bien, elle le ferait avec autant d'éclat qu'elle s'est attaquée aux objectifs militaires. Bon. Mais à côté de ça, il faut comprendre que ce peuple qui vit, comme le peuple palestinien, dans des ghettos, dans des camps, et je répète, pas au Koweït ou pas, je ne sais où encore, mais vit dans des ghettos à 900 km de Paris, où aucune liberté n'est véritablement admise. Bon, j'ai vu à plusieurs reprises, personnellement, des soldats rentrer dans des maisons sans aucun prétexte, d'en ressortir. J'ai vu, tenez un exemple tout à fait intéressant, au cœur de Falls, qui est le quartier, un des principaux quartiers catholiques de Belfast, il y a une tour d'une quinzaine d'étages. En haut de cette tour, on voit des grandes antennes. Il faut savoir qu'en permanence, des hélicoptères survolent la ville de Belfast. Et ces hélicoptères retransmettent au centre qui est en haut de cette tour des informations sur tous les mouvements de foule ou tout simplement tout ce qui peut se passer dans les quartiers catholiques. Eh bien, ces informations sont donc rassemblées dans ce local. Et en dessous habitent 15 familles, sur 15 étages plutôt, habitent des familles catholiques. Les Anglais ont mis des familles catholiques ici pour empêcher l'IRA de faire sauter ce centre qui permet d'espionner quasiment toute la ville. Bon, s'il n'y a pas là un bouclier humain, qu'on a tant de fois dénoncé, comme tu l'as indiqué à l'instant, à propos de Saddam Hussein il y a quelques mois, eh bien, s'il n'y a pas là un bouclier humain, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, ce sont les Anglais qui se permettent de se conduire de cette sorte.
Est-ce que tu peux nous rappeler très brièvement, parce que j'imagine que beaucoup d'auditeurs connaissent ça, mais pour les jeunes, ça peut être un rafraîchissement intéressant de la mémoire, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement les origines de la situation actuelle en Irlande?
Oui, c'est une situation qui date d'il y a 75 ans, enfin en Irlande du Nord, à savoir depuis 1916, okay. Depuis la Pax, ce que l'on appelait la Pax sanglante de 1916, c'est-à-dire l'insurrection à Dublin, organisée par une poignée de militants nationalistes irlandais, je crois que c'était à peine plus d'un millier, et là, ces gens-là ont pris d'assaut la poste centrale de Dublin et ont proclamé la République. La République libre d'Irlande. Bon, il s'en est suivi une semaine de répression sanglante où il y a eu des milliers et des milliers de morts. Donc, nous sommes en 1916, en pleine guerre de 14-18. Et à la suite de ça, cette répression a engendré évidemment des actions révolutionnaires, la création de l'armée républicaine irlandaise, et tout ça a abouti en 1920 à l'indépendance, dans un premier temps à un traité d'État libre d'Irlande, et dans un deuxième temps à la proclamation de l'indépendance. Bon. Toujours est-il que les Anglais ont voulu garder un pied en Irlande, d'où la création de l'Ulster, cette région donc qui comprend, je crois, 5 ou 6 comtés du nord de l'Irlande, avec deux grandes villes, Belfast, qui doit avoir à peu près 700 000 habitants, et Derry, que les Anglais se plaisent à appeler Londonderry, pour encore humilier évidemment cette ville. Bon, et donc ces deux villes qui sont les centres actuellement de l'agitation, enfin depuis une vingtaine d'années. Et donc cette situation semblait irrémédiable. D'un côté, on avait gardé le Nord, les Anglais avaient gardé le Nord parce que c'était la région la plus industrielle, c'est la région la plus riche. Ils avaient donné un semblant d'indépendance, puis l'indépendance totale au Sud, mais ils ont toujours voulu rester dans ces régions du Nord. Alors, effectivement, ils ont implanté dans un premier temps un certain nombre de familles, protestantes, venant d'Angleterre, venant de Londres, de la région londonienne, puis ensuite ils ont pris tous les postes importants de cette région. Alors, les gens de gauche, bien souvent, veulent réduire le problème irlandais à un problème de lutte de classe. Ce n'est pas du tout ça. S'il est vrai qu'effectivement les catholiques sont souvent considérés sont souvent des emplois peu intéressants, et les protestants se prennent bien souvent les emplois les plus intéressants et sont souvent la bourgeoisie aisée de Belfast ou de Derry, eh bien il n'empêche qu'il ne sait pas, ce n'est pas seulement un problème de classe. À côté de ça, il y a un problème identitaire, il y a un problème d'un peuple qui veut son identité. Et je crois que c'est c'est ce qui est important de souligner à ce niveau-là. Alors, cette situation a duré jusqu'aux années 70, au moment où un peu partout en Europe, effectivement, ont éclaté des conflits que l'on, enfin, les révolutions que l'on sait. Et à ce moment-là, en Irlande, effectivement, en Irlande du Nord, cette révolution a repris un peu le dessus de l'actualité. Et depuis 1969, je crois, où a éclaté les premiers véritables incidents entre les nationalistes irlandais et les troupes d'occupation britanniques, eh bien depuis 1969, tous les mois, régulièrement, cette guerre revient au devant de l'actualité, revient dans les journaux par l'intermédiaire d'attentats ou de choses comme ça, avec des épisodes tout à fait intéressants. Ça a été par exemple au début des années 80, pour essayer de passer à une autre forme d'action que celle de l'action militaire, eh bien on a eu la période des grèves de la faim de Bobby Sand et des gens comme ça qui ont essayé de faire des grèves de la faim.
C'est ça qui m'a fait prendre conscience de la question irlandaise, qui m'était complètement étrangère. J'ai vu des gens comme Bobby Sands et puis tous ses amis se laisser mourir de faim. C'était pas du tout des grèves de la faim bidons comme font nos ringards politicards français de la prétendue extrême gauche. C'est des gars qui sont morts de faim. Ils se sont laissés mourir de faim. Et en face d'eux, il y avait un pouvoir qui les laissait mourir de faim. C'est-à-dire que
ce n'était pas la première fois.
Cork, voilà. Oui, qui avait.
Je le dis très tranquillement, en ayant conscience du côté provocateur de mes propos. Je trouve que c'est aussi respectable d'un côté que de l'autre. Je trouve que c'est admirable pour des militants comme Bobby Sands et ses amis de choisir la mort. De cette façon-là, parce que c'est un témoignage terrible d'une violence extraordinaire qui t'a portée, mais en même temps, Madame Thatcher a été d'un courage politique extraordinaire en disant « Je refuse de céder, nous sommes en guerre et nous nous comportons comme un pays en guerre ». Là, il faut admettre quand même que c'est grandiose, l'attitude des deux parties est grandiose. Si on compare avec ce qui se passe en France, où au bout d'une demi-journée de grève de la faim, n'importe quel petit agitateur Lyon reçoit la visite de Madame la rescapée de la planète des singes qui vient lui apporter des sucreries en lui assurant du soutien du pouvoir, on mesure à quel point on pourrait prendre des leçons de civisme et de patriotisme de la part de ces gens-là et des deux parties.
Justement, cette attitude qui a consisté, comme le disait Pierre Monnier à l'instant, qui a consisté à faire la grève de la faim, bon, a été inspirée par dans les années 20, le maire de Cork, qui avait fait plusieurs morts, qui en est mort d'ailleurs. Bon, il y a toujours ce genre d'action a toujours été faite par ce peuple, qui est un peuple d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu les Irlandais, qui est un peuple agréable à vivre, mais qui est un peuple fier de lui, qui est fier de son passé.
Merveilleux. J'ai encore vu avant-hier soir la pièce de Singh, le baladin du monde occidental. C'est extraordinaire. C'est irlandais, c'est irlandissime, une pièce comme ça. C'est extraordinaire.
Tout à l'heure, lorsque nous parlions de Bobby Sands, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Bien souvent, dans les milieux nationaux, on dit oui, mais l'IRA sont des marxistes. Bon, d'abord, ce ne sont pas des marxistes. Il y a effectivement à un moment donné, dans les années 70, une fraction, une sous-scission de l'IRA qui s'est plus ou moins inspirée du marxisme. C'est très fréquent à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, tout ça ne représente plus grand-chose. Bon, je crois que tout simplement parce que ces Irlandais sont d'abord extrêmement imprégné de catholicisme. Bon, le catholicisme joue un rôle très important, y compris d'ailleurs dans leur combat, puisque bien souvent des prêtres s'engagent de manière très militante dans ce combat. Et à côté de ça, leur nationalisme les rend tout à fait imperméables au marxisme. Donc de ce côté-là, je crois qu'il faut que les choses soient assez claires et qu'on arrête de nous dire que le combat de l'IRA ou des nationalistes irlandais est un combat inspiré par les marxistes.
On ne va pas faire ce soir, Roland Ely, le tour de la question irlandaise, mais on refera une émission beaucoup plus développée sur ce sujet avec des amis irlandais qui viendront.
Oui, bien sûr.
Et on essaiera de trouver, je pense qu'on arrivera à trouver un Anglais qui viendra présenter aussi la position de l'Angleterre.
Ça serait effectivement très intéressant.
De l'Angleterre qui n'est pas une position... je veux dire qu'évidemment, les Anglais ne restent pas là-bas simplement pour le plaisir d'emmerder les Irlandais. Ça, c'est parfaitement...
Le génie irlandais est quelque chose de tellement fascinant que ça vaut vraiment la peine que nous arrêtions.
Moi, je crois que le côté politique, la leçon politique qu'il faut retirer de ce conflit, c'est qu'il y a effectivement d'un côté un peuple qui défend son unité, qui défend son droit à exister. D'un autre côté, il y a effectivement une nation qui occupe l'Irlande, qui se conduit comme un occupant, qui est en guerre. Et entre ces deux, moi personnellement, en tant que militant nationaliste français, entre d'une part le cosmopolitisme anglais et d'autre part la réaction nationale des Irlandais, j'ai fait mon choix. Maintenant, je vais tout à fait difficile d'avoir d'autres positions dans notre famille politique à ce sujet.
Alors, un auditeur nous interroge, Roland Ely, le meurtre de Lord Mountbatten est-il considéré comme un... Enfin, donc Lord Mountbatten, qui a été assassiné par l'IRA, était-il considéré comme un objectif militaire, ainsi que le dit votre invité en déclarant que l'IRA ne s'attaque qu'aux objectifs militaires.
Bon, alors d'une part, en ce qui concerne le meurtre de Lord Mountbatten, il y a eu effectivement des actions qui ont été faites, qui sont regrettables. De par certaines fractions, certains groupes, que l'on a souvent d'ailleurs assimilé peut-être un petit peu rapidement à l'IRA. Je ne sais pas si, en ce qui concerne ce cas bien précis, Lord Mountbatten, compte tenu de toutes ses responsabilités, de tout le rôle qu'il peut jouer, qu'il pouvait jouer plus ou moins dans la politique anglaise, est-ce que c'était ces motifs qui ont poussé les militants, enfin les soldats de l'IRA ou d'organisations plus ou moins parallèles à l'IRA à effectuer cet acte. Bon, ça je n'en sais rien, c'est très difficile à dire. Bon, toujours est-il qu'à partir du moment qu'un homme politique quel qu'il soit prend publiquement ou tout au moins par ses responsabilités des engagements, il peut à un moment ou à un autre se trouver devant ce genre de problème. Et c'est regrettable, mais c'est aussi regrettable que de voir les milices protestantes, les gens par exemple du pasteur Paisley s'attaquer eux à un chauffeur de taxi à Belfast comme ça a été le cas cette semaine. Bon, vous savez peut-être que depuis quelques jours, des négociations ont été ouvertes par l'intermédiaire du ministre anglais chargé donc de la question irlandaise entre les différentes parties en présence. Alors là aussi, on parlait tout à l'heure du problème palestinien, ça pouvait être tout à fait comparable. Bon, les mouvements protestants anglais et loyalistes sont évidemment tous invités, y compris celui du pasteur Paisley. Et à côté de ça, eux ont demandé à choisir des interlocuteurs catholiques. Alors on a trouvé un parti social-démocrate là qui était soi-disant un parti représentatif des catholiques d'Irlande du Nord. Bon, à ma connaissance, jusqu'à présent, le parti représentatif des catholiques d'Irlande du Nord, si j'en juge par les résultats électoraux, c'est le Sinn Féin. Bon, le parti social-démocrate, on a entendu parler récemment au sujet de cette rencontre. Bon, pour discuter du prochain statut de l'Irlande du Nord. Bon, c'est un petit peu comme d'ailleurs les en Palestine. Bon, les Israéliens sont bien d'accord pour discuter éventuellement avec les Palestiniens, à condition qu'ils choisissent eux-mêmes leurs Palestiniens, bon, ou leurs interlocuteurs. Bon, on peut toujours, ça ne tient pas debout.
Roland Ely, merci. Bon, naturellement, je suis parfaitement conscient qu'on n'a pas du tout même effleuré la question irlandaise. Je voulais simplement qu'on parle de ça ce soir pour remettre un petit peu les montres à l'heure et donner la mesure précise de la validité de certaines déclarations et de certaines prises de position anglaises en ce qui regarde la guerre du Golfe. Hein. Je sais très très bien d'aller faire le ménage chez les autres, mais la moindre des choses, ce serait quand même de ne pas avoir trop de merde chez soi. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je précise...
Je voudrais juste rajouter peut-être une information pour les gens qui s'intéressent au combat de l'Irlande du Nord. Il existe un comité Europe-Irlande du Nord à Paris. Et je peux donner l'adresse.
Oui, donne l'adresse.
Boîte postale 94 75 561 Paris CEDEX 12. Donc boîte postale 94 75 561 Paris CEDEX 12.
Merci Roland Ely. Alors j'indique à ceux qui voudraient te rencontrer pour parler de ça ou d'autres choses que tu seras le lundi 13 mai 91 à 20h30 à la salle des agriculteurs 8 rue d'Athènes Paris 9e pour une soirée, un meeting du mouvement national, mouvement et d'initiative nationale qui est présidé par Jean-François Touzet. Un meeting dont le titre est parfaitement explicite, Mitterrand démission, 10 ans ça suffit, et qui donnera la parole à François Papillon, secrétaire des indépendants de Paris et vice-président du mouvement d'initiative nationale, Didier Le Cerf, rédacteur en chef d'Espace Nouveau, Roland Ely, secrétaire général du mouvement d'initiative nationale, et Jean-François Touzet, qui est le président. C'est salle des agriculteurs, 8 rue d'Athènes, lundi 13 mai 91 à 20h30. On écoute un petit bout de Soldier Song qui est l'air qui conclut toutes les soirées en Irlande.
Oui, c'est toujours très intéressant de voir à chaque fois qu'une, par exemple dans un pub le soir, aux alentours de 11h lorsque le pub va fermer, eh bien il est de tradition dans ce pays que les gens se lèvent pour entonner le Soldier Song, c'est-à-dire l'hymne national.
Puis alors on traverse toute l'Europe pour se retrouver en Russie, parce que je voudrais demander à Pierre d'inaugurer ce soir une chronique dont j'espère qu'il la tiendra régulièrement et qu'on pourrait appeler Visage.
Oui, qu'on appellera à minute la France.
Visage, mais oui. Dont tu peux nous donner un aperçu oral avant de nous en donner un aperçu écrit. Et il s'agit de une série de portraits de personnages que tu as rencontrés.
Que j'ai rencontré, même de personnages que je n'ai pas rencontrés, mais de présenter des visages de gens qui ont quelque chose de particulièrement intéressant.
Alors le premier, c'est Trofimov.
Un nommé André Trofimov. Voilà, je vais dire, qui était André Trofimov? C'est un monsieur qui s'appelait en réalité Troubnikov et qui était en 1917 le conservateur du musée de l'Ermitage à Petrograd. Ce célèbre musée, cet extraordinaire musée, un des plus grands, des plus beaux et des plus riches du monde, tout le monde le sait. Troubnikov a été le dernier conservateur de ce musée. Évidemment, il a été balayé par la révolution bolchevique et il s'est réfugié en France. Il s'est retrouvé en France sans un rond, pauvre, dénué de tout, n'ayant pour tout bagage que son extraordinaire culture et ses connaissances artistiques. Alors, pour gagner sa vie, il est allé faire de la Chine au marché aux puces, tout simplement. À Saint-Ouen et dans tous les endroits où on vendait des produits d'occasion, etc. Et, comme il l'a raconté lui-même, il promettait à quelqu'un de vendre un tableau, par exemple, qu'il demandait qu'on lui confie, et une fois qu'il avait trouvé un acheteur, il payait celui qui lui avait... Il a mené une vie extrêmement minable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet homme, qui était d'une intelligence et d'une culture tout à fait exceptionnelle, s'est passionné pour la culture française. Non pas la culture française qu'il connaissait déjà au plus haut niveau, comme bien sûr il connaissait déjà Ingres, Delacroix, Stendhal et Balzac, il connaissait déjà tout ça, mais il s'est intéressé à la culture française au niveau du sol. C'est-à-dire la petite culture, celle de toutes les petites gens, celle du douanier Rousseau, celle du petit artisan, celle de ceux qu'il a appelés, dans un de ses derniers livres, les rimailleurs et les poétereaux français. J'ai connu cet André Trofimov. C'était un homme extraordinaire, un personnage extrêmement curieux, très grand, avec une voix de basse et un accent russe à couper au couteau. Et il racontait lui-même de toute sa vie. Il a écrit d'ailleurs tout ce qui lui est arrivé dans une demi-douzaine de livres qui sont absolument passionnants, dont le premier est intitulé du palais impérial au marché aux puces, et dans lequel il raconte toute son histoire, comment se trouvant à Saint-Ouen, il faisait comme il disait lui-même, comme je le faisais à l'Ermitage, quand une vieille concierge apportait une espèce de vieille croûte, je l'examinais avec un soin extraordinaire, comme je l'aurais fait quand autrefois l'entourage du prince de Conti me confiait l'examen d'une toile de maître. Toute sa vie a été menée comme ça. Et il a été mêlé à une affaire extraordinaire, extrêmement drôle, qu'il racontait lui-même, d'une manière extrêmement plaisante, qui a été l'histoire qui est connue sous le nom de la Vénus au Navet. La Vénus au Navet, c'est une sculpture antique qui a été trouvée dans un champ au centre de la France et qui a surexcité pendant 6 mois tous les amateurs, tous les snobs, le ministre des Beaux-Arts qui s'appelait Huysmans à ce moment-là. Tout le monde a été surexcité par cette Vénus au Navet, qui s'appelait ainsi parce qu'elle avait été trouvée dans un champ de navet, une sculpture dans le genre de la Vénus de Milo. Il lui manquait un seul bras et il lui manquait un nez. Tout le monde a pensé que c'était un chef-d'œuvre de l'art antique extraordinaire, jusqu'au jour où un type est arrivé, il a sorti de sa poche un nez qu'il a appliqué sur la statue en question, en disant « c'est moi qui l'avais faite ». Or, il se trouve que le Trofimov dont je vous parle, c'est pour ça que je raconte l'histoire de la sculpture au navet, avait eu la curiosité d'aller voir ce chef-d'œuvre extraordinaire, lui qui avait vécu pendant des années à l'Ermitage, au milieu des plus belles choses, il est allé là, il a regardé, et lui tout de suite, il a dit « non, ça ne vaut absolument rien ». Et alors, il a expliqué aux gens, avec son accent russe extraordinaire, que ça ne pouvait être qu'un faux à cause du grain, du marbre, le grain qui ne valait rien. Et alors, quand il racontait l'histoire, par la suite, il disait « mais tout le monde se moquait de moi », et tout le monde disait « mais qu'est-ce qu'il vient nous embêter avec son grain, celui-là » Or, il avait tout de suite vu du premier coup d'œil que c'était un trucage, effectivement, c'était un trucage. Alors, par la suite, il a continué, et il s'est passionné pour la poésie, la culture française, et il a écrit des livres admirables.
Alors, c'est là-dessus qu'on va conclure, si tu veux, Pierre, on pourra en reparler, mais
oui.
Ces livres sont introuvables,
Ils sont épuisés.
Et je lance un appel solennel à l'éditeur pour qu'il les réédite, parce que ce sont des merveilles, tu m'en as prêté deux. Ce sont des merveilles d'écriture, c'est d'une écriture magnifique, légère, aérienne.
Absolument, oui.
Mais si l'éditeur ne veut pas le faire, je lance un appel à Jean-Gilles Maliarakis qui fait du reprise, reprise d'édition laissée à l'abandon. Et là, il y a des choses merveilleuses à publier. Ah, je suis sûr que ça lui plairait énormément.
Mais je pense qu'on pourrait peut-être même demander aux auditeurs, il y en a peut-être parmi eux qui ont quelques-uns de ces livres. Le premier s'appelle « Du palais impérial au marché aux puces ». Il a été édité par les Argonautes et couronné par l'Académie française. Il y en a le second, s'appelle...
Poétreau français.
C'est avant la poésie française avant Ronsard.
Voilà.
Et le dernier, Rimailleurs et Poétreau, que j'avais édité moi quand j'avais essayé de faire l'éditeur, comme on dit, en 1952. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer André Trofimov quand il m'a demandé de lui éditer son livre.
Merci Pierre, et puis à la semaine prochaine pour un autre visage.
Ici Radio Courtoisie. La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, 95.6 MHz. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 1er mai de 18 à 21h, et en différé le jeudi 2 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les deux cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En envoyant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
André Figueras dédicacera son livre 11 amiraux dans l'ouragan de l'histoire jeudi 2 mai, c'est-à-dire demain à 21h à l'atelier de l'Éclipse, 3 rue de l'Asile Popincourt, métro Saint-Ambroise ou Richard Lenoir. Et Philippe Gauthier dédicacera ses livres, La Toussaint Blanche par exemple, samedi au siège de la Fédération de Paris du Front National, 11 rue de Bernouilly. Je vous souhaite une...